France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, nos années radio de nuit. Épisode 4, Skyrock et Fun, nos limites. Quand on a 13 ou 14 ans, la nuit commence plus tôt que pour les adultes. À cet âge-là, les émissions de début de soirée sont déjà des émissions de nuit. On les écoute dans son lit avec un radio-réveil ou avec des écouteurs. Et quand on était ado dans les années 90, eh bien il y avait de grandes chances pour que l'on tombe sur ça.
Août 92, Fun Radio invente Love in Fun pour vous donner la parole.
Oui, bonjour Doc, bonjour des Fun.
Trois mois plus tard, Love in Fun devient, grâce à vous, l'émission la plus écoutée de France. Aujourd'hui, rien n'a changé et vous êtes chaque soir de plus en plus nombreux à appeler Love in Fun. Il y a forcément une raison. Love in Fun.
À l'antenne, entre 1992 et 1998, Love in Fun a été la plus célèbre des émissions de libre antenne de la décennie. L'animateur Dee Fool et un médecin surnommé le Doc répondaient en direct aux questions que se posaient les adolescents, notamment sur leur sexualité. Love in Fun était inspiré directement d'une émission américaine à succès, Loveline.
Loveline is meant for an adult audience. Loveline may contain sexually oriented content. Listener discretion is advised.
Loveline with Adam Carolla and Dr. Drew.
Diffusée depuis 1983 sur une station de Los Angeles, Loveline était au départ une émission sur les relations, toutes les formes de relations, amoureuses, amicales, familiales. Et puis, avec l'arrivée du médecin Drew Pinsky, spécialiste de l'addiction, le show a pris une toute autre dimension. La dynamique entre Drew Pinsky et ses co-animateurs, notamment le comédien Adam Carolla, a fait de Loveline un programme à la fois informatif et drôle. Tous les sujets y étaient abordés avec une touche d'humour noir et un ton particulièrement direct. L'émission devient vite un lieu où les jeunes peuvent discuter librement de leurs problèmes et de leurs questionnements et trouver des conseils d'adultes dans une atmosphère des plus cool. Love in Fun en reprend le concept intégralement.
Entre 19h30 et 22h, Love in Fun avec Doc et Dee Fool. Le sexe sans complexe, l'amour avec humour.
Avec son adaptation de Loveline, Fun Radio entend surtout répondre à la grande radio rivale Skyrock, qui a inauguré en France les premières émissions de libre antenne. Depuis décembre 1991, entre 20h et 22h, l'animateur Mahler prend au téléphone des auditeurs et des auditrices dans son émission Bonsoir la planète.
Bonsoir la planète !
Elle s'appelle Sarah, elle a 17 ans, elle habite Bois-Colombes. Bonsoir Sarah.
Bonsoir, exactement, par relation sexuelle.
Alors comment tu vis ça? Tu l'as dit à tes parents?
Bien sûr,
aujourd'hui,
tout ce que j'ai
à trouver,
j'ai une
vraie demande. Bonsoir Sébastien. Alors toi, t'as les boules aussi?
Non, j'ai eu un problème avec un de mes voisins, quoi.
Et alors, qu'est-ce que tu veux faire?
J'ai essayé de le tuer, quoi.
Et alors?
Un soir, j'ai pris un couteau, mais je l'ai pas fait, quoi. Non, j'ai crevé son chat, par contre.
Bonsoir la planète. Tous les soirs, 20h-22h, sur Skyrock.
C'est l'époque où Arthur s'autoproclame l'animateur le plus con, où les libres antennes sont peuplées de présentateurs comme Maître Lévy, Laurent Petit-Guillaume, Marie, Princesse Jade ou Laurent Baffy. Il y a aussi Super Nana, animatrice culte de la bande FM, décédée en 2007. Si culte qu'il existe aujourd'hui un site intitulé show-supernana.com qui reprend 300 heures d'archives de ses émissions. Et c'est d'ailleurs sur ce site en libre accès et non pas dans notre traditionnelle salle des archives que nous avons trouvé la plupart des extraits que vous entendrez dans cet épisode, comme par exemple celui-ci.
Super.
Bon, ça suffit. Maintenant, j'ai trop de problèmes dans mon couple avec Laurent. Alors, à cette heure-là, on est au lit. Par contre, tous les jours, du lundi au vendredi, de 19h à 22h, on est sur Skyrock.
Réécouter ces émissions de notre adolescence aujourd'hui, c'est-à-dire à l'âge qu'avaient nos parents à l'époque, est un exercice des plus étranges. Ce qu'on trouvait génial à ce moment-là nous paraît parfois un peu bête, preuve que les temps ont changé, on mesure à quel point, par exemple, la misogynie ordinaire constituait un non-sujet absolu. Et surtout, on se rend compte de ce qui se joue et qu'on ne percevait pas alors, des sous-entendus cachés derrière des phrases qu'on prenait au premier degré. On comprend mieux aussi les contraintes qu'avaient les animateurs et dont on n'avait pas forcément conscience. Tout ce qu'ils devaient avoir en tête, la difficulté du travail, avoir l'air toujours en forme, produire chaque jour un spectacle. En réalité, on se rend compte que ce que l'on croyait être une réunion de copains était aussi un travail. Et puis souvent, bien sûr, on rigole, comme quand Super Nana appelle Mamie Léone, une auditrice régulière.
Allô ?
C'est à moi ?
Oh, bah oui !
Ah, vous n'allez pas nous la tuer, hein, notre Super Nana, là-bas, hein ? Oh. La mamie, elle se révolte, hein ?
Oh, oh bah te v'là, toi ! Où c'est que t'étais passé ?
Ah, bah, le même petit poulet, moi, je laisse au nouveau venu.
Oh, mamie.
Bah, il faut, c'est tous ces jeunes, moi, oui, je leur laisse la place.
Je me suis dit, où c'est qu'elle est, la mamie, là ? Ça fait un moment que je n'ai pas entendu. Alors, je me suis dit, elle est coincée devant sa télé, elle attend la finale de Marseille,
la
machin,
télé,
là.
La télé, comment veux-tu ? Tu sais bien que je la vois mal, là.
Oh, bah, ouais, mais je t'ai déjà vu avec ton ballon chez toi, en train de t'exercer à marquer des buts, hein. Alors, ça, faut pas me la jouer, mamie, hein. Alors, ça va bien ?
Oh, t'es coquine, alors. En tout cas, j'ai vu ta petite japonaise adorable, ta petite nouvelle poufiasse.
La Denden ?
Oh,
elle est mignonne, elle est mignonne, la petite Denden, hein ?
Je la vois pas, mais elle a une belle voix.
Oh, oui. Mais c'est une petite jaune, hein. Enfin, c'est une japonaise, quoi.
Si tu sais les choisir, quoi, dis
donc. Oh, oui. Mais alors, ce qui est embêtant, c'est que quand je la vois manger le soir avec ses sushis, là, tu sais, c'est du poisson cru, là, ça me dégoûte un peu. Ouais, manger du maquereau cru tout à l'heure, j'étais dégoûté, moi. Ouh là 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 là.
Et avec
bizarre,
des baguettes,
hein. Ah non, les sushis, tu sais, c'est enroulé avec du, je sais pas, avec du riz ou je sais pas quoi. Dans des mœurs un peu bizarres.
J'en profite pour le lui faire savoir.
Bah attends, du macro cru quand même, mamie. Terrible.
Un macro cru.
Enfin, je me demandais pourquoi j'avais chaud, mamie. Ils ont encore bouché la chose. Comment ça s'appelle quand il y a du vent dans le plafond ? La climatisation, voilà. Ils ont encore bouché la climatisation. Ça, c'est le malheur. Hein. 45 piges, ça supporte plus rien du tout. Il va venir en col roulé au mois d'août, lui, si ça continue.
Hervé Glevarec, vous êtes sociologue de la culture et des médias, et notamment de la radio. Vous avez écrit le livre « Libre antenne, la réception de la radio par les adolescents », une coédition Ina Armand-Collin. D'abord, une réaction d'auditeur, peut-être, sur ces archives qu'on vient d'entendre.
Elles sont rigolotes, elles sont, vous avez pris un exemple avec la japonaise qui peut-être aurait du mal maintenant quand même à passer parce que c'est un peu limite stigmatisation.
Comme beaucoup de ce qui se disait dans ces émissions.
Voilà, c'est ça, et qu'on regarde rétrospectivement, effectivement, avec l'œil contemporain, très sensible à toutes les questions de discrimination, de représentation négative. Donc je pense que maintenant ça passerait beaucoup moins. Ça témoigne effectivement d'une sorte de licence orale que ces libres antenne accueillait, voilà. Et puis il y a, je vois un peu ce côté, on essaie de créer une famille, on essaie de créer une communauté à l'antenne, qui, ces choses qui vont se retrouver, qui continuent de se retrouver maintenant dans les libres antennes, qui continuent d'exister, il y en a de moins en moins.
Est-ce qu'on entend un héritage des radios libres, ou est-ce que c'est totalement différent ?
Oui, il y a un héritage, il y a un fil conducteur avec les radios libres, qui avaient initié ces émissions débridées, relativement licencieuses. On peut penser à Carbone 14 qui avait organisé des rapports sexuels ou pseudo-rapports sexuels en direct, voilà. Donc oui, il y a une filiation avec la radio libre. D'ailleurs, le terme de radio libre est le terme qui va être repris par Skyrock après Love and Fun, voilà, par Difool. Donc il y a cette idée de créer une filiation avec les radios libres et l'espace d'ouverture de la parole qu'elles ont proposé dans ces années-là.
Alors justement, les animateurs, aujourd'hui, ils ont entre 55 et 60 ans. Et pourtant, ils sont toujours à l'antenne pour certains de ces mêmes radios qui sont des radios considérées toujours comme des radios qui
oui.
s'adressent à des jeunes ou à des adolescents.
Oui, alors il ne faut pas généraliser. Là, vous pointez le cas très particulier quand même de Difool, qui a effectivement mon âge. Et donc, bah lui, oui, il continue d'être à l'antenne. Il continue d'animer cette libre antenne. Donc, il faut croire que son public s'est renouvelé à mesure que lui vieillissait, qu'il a réussi à rester jeune.
Mais donc, ses animateurs sont quand même toujours là. Laurent Petit-Guillaume est sur France Bleu. Arthur est toujours là aussi. Il s'est peut-être un peu embourgeoisé. D'ailleurs, c'est devenu un peu un businessman. Il y a un esprit libre antenne, radio jeune, qui a peut-être un peu disparu.
Oui, alors les libres antennes, en fait, objectivement, il en reste une, bon, qui reste celle de Skyrock, il en reste une sur Europe 1, et je crois pas qu'il en reste beaucoup. Fun Radio n'a plus de libre antenne, Énergie n'en a plus non plus. Voilà, donc c'est un format quand même qui a disparu un petit peu de la radio, ça, il faut pas exclure qu'il puisse revenir, et qui essaye, quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur le net, du côté de Twitch, on voit qu'il y a quelques youtubeurs et quelques streamers qui baptisent leurs émissions libre antenne. Voilà. Donc il y a un héritage qui essaie de se transmettre de ce côté-là.
Est-ce que vous avez le sentiment, Hervé Glévarec, que ces émissions de Libre Antenne, c'était quand même un peu les petites sœurs de Allô Macha sur France Inter, ou même les petits-enfants de Ménie Grégoire, ces émissions de l'intimité où les auditeurs appelaient? Donc là, c'est dans un style qui est un style différent, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de commun?
Oui, il y a quelque chose de commun qui s'articule autour de la place de la parole. C'est quelque chose que je notais à l'époque de mon enquête sur les libres antennes, c'est qu'il y avait quand même une spécificité française de cette parole relativement libérée, très libérale à l'antenne des radios nationales et qu'on n'avait pas dans d'autres pays européens et qui doivent tenir à la fois au statut de la radio, à la concurrence privée-publique qui anime un petit peu le fait qu'il faut entretenir des libres antennes face aux concurrents, la question de la musique et des jeunes générations. Voilà, il y a une espèce de mariage qui s'est opéré autour de la radio, autour de la question de la parole. Voilà, donc
donc c'est une spécificité
oui,
nationale.
Oui, on peut penser aussi à Françoise Dolto, à ses émissions. Voilà, donc il y a quelque chose comme une valorisation de la parole dans l'écosystème français et une valorisation aussi de la radio, voilà, et qui se conjugue là particulièrement bien à l'occasion de ces libres antennes.
Ce qui change par rapport aux émissions sur l'intimité qui ont précédé ces libres antennes, c'est peut-être la crudité du langage, la vulgarité assumée, le fait qu'on y parle absolument sans tabou.
Noria, Paris, 16 ans. Salut Noria.
Salut.
Bonsoir.
Salut. Bonsoir.
Ça va?
Oui, ça va, enfin, presque.
Ah, vas-y, raconte.
Bon, eh bien, voilà, donc j'ai 16 ans, j'habite à Paris, depuis 14 ans, je ne suis plus vierge.
Bravo. Combien de temps? 14 ans.
Oui. Depuis 14 ans, moi j'ai 16 ans. Ça fait donc 2 ans que je ne suis plus vierge. Et donc mes parents ne le savaient pas. Enfin si, ma mère, oui, mais elle n'était pas tout à fait vraiment au courant de mes activités. Enfin bon, bref. Et elle savait seulement que je n'étais pas vierge. Et mon père a appris assez brutalement que je ne l'étais plus. Par une personne, donc il l'a appris et maintenant il veut une preuve. Moi j'ai tout mis en bloc évidemment, parce que c'est pas la peine d'essayer de le faire comprendre.
Tu es d'origine maghrébine?
Oui, oui.
Donc pour eux c'est primordial, c'est important.
Oui, c'est vraiment très important.
Il va falloir tricher un peu, ma grande homme. Tu vas trouver un médecin, et ça il faut trouver une complicité qui va, je suis désolé de dire ça, mais bon... Le Nord doit être sauf, moins pour elle.
Bah ouais, ouais.
Parce que c'est dramatique, il y a un médecin qui va certifier que tu es vierge, et puis c'est tout.
Ça se trouve, ça, il n'y a pas de problème.
Ah. Oui, c'est pas très bien ce que je dis là. Je suis désolé, mais c'est un gros péché, mais bon, je crois qu'il faut aussi aller plus loin. Ce qui compte, c'est ta vie affective à toi. Et c'est vrai que si le fait de ne plus être vierge déclenche chez ton père une réaction violente, agressive ou autre, bon, voilà. Il y a certainement un fort décalage entre vous, un décalage de génération, si j'ose dire, et même de mode de vie, probablement. Toi, vivant en France déjà depuis un certain temps, et lui, donc plutôt habitué à une autre vie, une vie plus stricte, certainement. La seule solution, c'est de tricher un petit peu sur cette... tout en gardant d'ailleurs les valeurs familiales qu'il t'a inculquées. Pourquoi pas? C'est important. La virginité au mariage, je ne sais pas, mais utiliser en tout cas ne pas avoir de relations sexuelles avec tout le monde n'importe comment, c'est certainement aussi très important. Faut pas le nier, ça. Ouais. Ça s'est passé une fois, bon, peu importe les circonstances, mais que ça reste pour toi une expérience et que tu ne le multiplies pas obligatoirement.
D'accord.
D'accord. Demain, le doc explique comment on vole une moto.
Non.
Hervé Glévarec, votre réaction sur cet extrait?
Il est très intéressant parce qu'effectivement, on voit que le doc sort de son rôle, il le reconnaît. Donc, il prend la défense du jeune face à son père. Il met en scène ce conflit de génération, ce monde qui avance, le fait que le père est en décalage complet par rapport à probablement ce qu'il faudrait dire à sa fille.
Ça devait être une grosse responsabilité pour le doc et pour Difool aussi, dans une moindre mesure, que de devoir répondre comme ça en direct à des problématiques de vie qui étaient quand même très impliquantes pour les personnes qui appelaient.
Oui, certainement, certainement. Alors, il faut toujours penser aussi qu'il y a un off à la radio, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de cas, effectivement, qui étaient très risqués, très pathologiques, il y avait de la psychopathologie à l'antenne, certainement, et donc il y a eu des prises en charge, je pense, par le doc, par la radio, une fois les micros éteints. Voilà. Il faut le dire, parce que c'est une façon aussi de dire que c'est pas... Ce sont des émissions responsables, Voilà, donc j'ai toujours dit que les animateurs de radio, Difool, Max, etc., étaient des gens qui ne transgressaient pas les règles attendues dans un pays démocratique comme la France. Voilà. Alors oui, ils transgressaient sur le plan du langage. On parlait de choses dont on ne parlait pas à table, ça c'est sûr. Mais sur le plan légal, ils sont allés très très peu de fois, voilà, hors des clous.
Mais il jouait un petit peu ce rôle de grand frère ou ouais. d'ami qui pouvait guider comme ça les plus jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, cette médiation, elle existe encore à la radio? On sait que les jeunes sont aussi, comme pas que les jeunes d'ailleurs, beaucoup sur Internet et sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être moins de médiation ou une médiation qui est différente. Comment vous voyez les choses, Hervé Glevarec?
Alors oui, c'est cette idée du grand frère, c'était marrant parce que j'avais rencontré un auditeur, donc je me souviens bien du lapsus. Il m'a parlé de Difool comme un éducateur. Pour dire animateur, voilà. Donc, il était vraiment dans ce rapport où Difool était le représentant de la règle. Puisque moi, j'ai compris les libres antennes comme étant la mise en scène de deux choses. Ce qui m'arrive et ce que je risque. Donc, je téléphone parce que je me pose la question de ce qui m'arrive, notamment sur le plan du corps, à un moment du cycle de vie où je me transforme, je suis adolescent, etc. Et ce qui m'arrive, c'est-à-dire la question de la limite. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Dans la France d'alors, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Est-ce que j'ai le droit de fumer? Est-ce que j'ai le droit de tromper mon copain? Etc. Voilà, la question des limites. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'on trouve maintenant l'équivalent? Alors, je pense que c'est pas les mêmes formats. Une partie de la jeunesse s'est déplacée du côté d'Internet et des formats réseaux sociaux et Twitch, etc. Je pense que c'est beaucoup plus de l'ordre du témoignage. C'est-à-dire que les adolescents actuels assistent à des témoignages.
Ils Mais qui ne sont pas médiatés, qui sont voilà. des témoignages sans, voilà. sans filtre et sans si personne, d'une certaine
voilà.
façon.
Une autre façon de le dire, c'est que peut-être... Il y a plus, disons que les libres antennes, elles offraient un espace commun. Je dis pas que c'est un espace public, c'est un espace commun parce que c'est un petit espace public. Il est commun à nous les jeunes. Et puis quand on a 25 ans, on arrête d'écouter les libres antennes parce que ça nous intéresse plus. Donc c'est un espace commun où il y a de la discussion, c'est-à-dire qu'on est à la fois auditeur, appelant, et puis il y a les animateurs. Bon, cet espace commun, il s'est probablement un petit peu raréfié dans le monde actuel avec les réseaux sociaux où il y a beaucoup plus d'individualisation et peut-être de petits espaces.
Au printemps 1994, Fun Radio fait les gros titres des journaux. Le CSA, gendarme de l'audiovisuel, est parvenu à faire déprogrammer le Difouloir, une émission qui va encore plus loin que Love in Fun et qui en plus n'a pas le filtre du standard. À son tour, c'est Love in Fun qui est en danger, mais les auditeurs se mobilisent pour défendre l'émission. Et on comprend pourquoi, car à l'antenne, on perçoit l'importance qu'elle peut avoir cette émission pour certains jeunes qui y trouvent une oreille et même un soutien.
T'as donc 17 ans, t'es à Paris, t'as été transfusée il y a 4 ans, c'est ça?
Oui.
Et t'es devenue séropositive.
Voilà. Et j'ai développé la maladie, quoi, le virus.
D'accord.
Donc, j'en ai pas pour longtemps, quoi.
Voilà. Tu as reçu combien de kilos de transfusion? Quelle quantité? Plusieurs flacons ou un seul?
Oui, parce que j'ai eu un accident de voiture, donc j'ai eu une grave perte de sang.
D'accord.
Et on m'a transmis, je ne sais plus quelle quantité de sang, mais bon, suffisamment pour...
Plusieurs flacons.
Voilà.
C'était quel mois?
C'était le mois de septembre. Septembre 85.
D'accord.
Et ce que je voudrais dire, mon coup de gueule, c'est de voir que les médecins qui m'ont soigné n'ont pas été écroués. Parce qu'on leur a intenté un procès, ma sœur et moi, parce que ma famille y est passée, à part moi et ma sœur.
Oui.
Et il s'est rien passé. Ils ont étouffé l'affaire. Et puis bon, voilà.
Qui a étouffé l'affaire?
Eh bien, tout l'hôpital, tout le monde. Voilà, voilà, c'est le coup de gueule que je voulais passer. Et puis bon, ben j'espère que vous allez vous en sortir, vous de votre côté, pour cette histoire d'amendement.
Oui.
Parce que j'ai envie de vous écouter au paradis, voilà, c'est pour ça.
Oui.
Et je sais pas si j'ai envie de vous demander un truc, mais je sais pas si ça va être possible.
Mm-hmm.
Est-ce que je pourrais juste avoir ne serait-ce qu'un petit mot du doc ou de Difool?
Ouais, sans aucun problème.
Une lettre que ouais, j'emporterai avec moi, si possible.
Bien sûr, j'ai. Mais si tu veux, tu vas pas quitter, je vais te donner mon numéro.
D'accord. Mm-hmm.
Si tu veux passer à l'émission, il n'y a aucun problème aussi.
Non, je peux pas, je suis dans mon lit là, j'ai vraiment plus de force. C'est à peine si j'ai réussi à vous appeler, il y a ma soeur qui est à côté de moi, mais voilà, quoi, c'est l'une des dernières choses que j'arriverai à faire, c'est passer un coup de gueule à la radio, et j'espère que les séropositifs se battront encore longtemps pour faire mettre en prison tous les salauds qui nous ont condamnés, quoi, injustement.
Avec les Varek, votre sentiment.
Ah bah, c'est poignant, c'est poignant. Je vous disais, ce off, là-bas, on le retrouve. Hein. Donc, on voit le très, très fort attachement aux deux animateurs. Donc, on a quelqu'un qui est au bord de la mort et qui appelle. Donc, c'est effectivement très impressionnant sur le plan radiophonique. Et si on élargit un petit peu la focale, ben, elle pose un problème. Elle intente un peu un procès. Donc, elle dénonce quelque chose dans l'espace public. Donc, elle transforme une question en problème public. Voilà. Donc, la Libre Antenne, c'est aussi ce lieu où il y a ces embryons de problèmes publics qui après vont se développer. Et puis aussi, il y a cette histoire de, ben peut-être, de lever la stigmatisation. Donc, il y a des choses qui sont au-delà du témoignage, il y a des choses qui s'ouvrent socialement, c'est-à-dire que bah, c'est quelqu'un qui est atteint de cette maladie et qu'on apprend à respecter, dont on apprend la souffrance. Voilà, donc ce sont des choses qui s'ouvrent du point de vue des effets de tolérance, par exemple.
Donc une émission positive à bien des aspects et qui est une aide et avec des animateurs responsables, alors même qu'on entend, et elle en parle dans l'archive quand elle parle de l'amendement, qu'on entend que ces radios sont en fait attaquées par le CSA, qui souhaite faire en sorte qu'il n'y ait pas de vulgarité et que donc on empêche certains mots d'être prononcés à l'antenne et donc on empêche certaines émissions d'avoir lieu. Est-ce qu'il y a une panique morale dans ces années 90 autour de Love in Fun ?
Oui, incontestablement. Il y a sans doute beaucoup d'ignorance. Beaucoup de parents ignoraient ce que leurs enfants écoutaient. C'était aussi bien, peut-être. Mais oui, il y a eu des paniques morales. Et la principale panique morale, c'était que s'ils écoutent ce qu'ils entendent dans les libres antennes, ça va les transformer. Ils vont avoir des multiplier les partenaires. Ils vont se mettre à fumer, etc. Voilà. Donc ça va entraîner, ça va débrider la jeunesse.
Mais il y a tout de même des dérapages. L'ambiance sur ces radios est assez misogyne, par exemple. Et Super Nana, sur Skyrock, n'a pas peur de dégommer toutes les sensibilités, y compris la sienne, et jusque dans ses propres jingles.
Super Nana, pour faire de la radio, on lui a dit qu'il fallait coucher. Elle y a cru, cette conne. Et en plus, personne n'a voulu.
T'as vu le truc ?
Hervé Glevarek, encore, c'est un jingle qu'on n'entendrait plus, qui nous fait même sursauter.
Bah oui, parce qu'elle transgresse tout, y compris elle remet en cause la question féministe, etc. Donc voilà, il y a une espèce de bouclage. Alors voilà, bon, maintenant on a pris ces questions très au sérieux, donc on serait plus en attente de parité, de respect, voilà.
Avec Super Nana, tout s'arrange. Même mal.
Chez Super Nana, l'atmosphère est encore moins sérieuse qu'à Love in Fun. Il y a même parfois un côté un peu surréaliste. Super Nana !
Sur Skyrock, il y a un gros nounours, un ballon, une épée, un ceinturon, quelques billes, des bonbons, une boussole et le pompon.
Il y a aussi
une lampe torche, un bâton, des châtaigniers, des marrons, un babar, des chiffons, un peluche et le pompon.
Et Super Nana.
Bonjour, la voilà, la belle émission sur la belle radio avec les beaux animateurs. Laurent, Petit Guillaume et Super Nana, avez-vous, chers amis auditeurs, des milliers de cadeaux à gagner, des brosses à dents, des verres d'eau du robinet, des demi de beurre fondu, des petites bouteilles de lait périmé, des huîtres en sachet, et naturellement de la musique, toujours de la musique sur Skyrock. Et oui, mesdames et messieurs, 33 tubes par heure. Et oui, forcément, on ne met que l'intro.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'invention, de la créativité dans ces radios dont on oublie aussi cet aspect-là des choses ?
Parce que vous pensez que cette créativité a tendance un petit peu à diminuer, à s'être aseptisée ?
Non, mais on ne met pas la créativité toujours du côté des radios commerciales pour les jeunes.
Oui, c'est vrai. Alors, je pense que le mouvement, depuis cette époque des libres antennes, le mouvement, c'est... Comment le nommer ? C'est une. Je pense que déjà, dans le langage, le langage radiophonique a beaucoup changé. Il y a une subjectivation des animateurs, un jeu, à la fois dans le podcast, ça se voit beaucoup, mais oui, y compris à la radio. Je pense que le niveau de langage, comme on dit, a beaucoup changé. Il s'est beaucoup familiarisé.
Donc il se rapproche finalement de ces radios-là ?
Alors oui, il se rapproche de la conversation ordinaire. Voilà, il se rapproche de la conversation ordinaire, il est moins guindé. Je pense que c'est une des grandes évolutions de ces 20 dernières années. Et en ce sens-là, il est aussi l'héritier de ces libres antennes. Mais parce qu'il y a une parole subjective qui s'est généralisée, et y compris du côté de la radio, donc y compris... Parce que d'une certaine façon, on pourrait dire que Difool est assez peu engagé subjectivement. Alors que maintenant, quelqu'un qui
il dit
tient...
pas jeu, quoi.
Voilà, il dit pas tellement jeu. Vous voyez, c'est la première fois que vous m'y faites penser. Mais finalement, il dit assez peu jeu. Il raconte assez peu sa vie. Voilà. Un animateur maintenant, il raconterait plus, il dirait plus facilement un jeu. Il s'engagerait peut-être un petit peu plus.
Un autre aspect intéressant de ces radios commerciales jeunes des années 90, c'est à quel point c'était une façon de s'identifier pour les jeunes qui les écoutaient. On écoutait Fun Radio ou on écoutait Skyrock, et sociologiquement, c'était pas la même chose.
Oui. Alors, il y avait deux positionnements, deux identifications. D'abord, la première, c'était contre les parents, contre la radio des parents, contre la radio de vieux. Et la deuxième grande différenciation, c'était à l'intérieur, effectivement, des radios, puisqu'il y en avait au moins quatre, hein, qui étaient le Move, Fun Radio, Energy et Skyrock, et qu'elles avaient des profils sociologiques un peu différents. Skyrock était un peu plus populaire que Fun Radio, un peu plus écouté par les catégories diplômées. Voilà, enfin, c'est ce qui pouvait ressortir un petit peu des...
On disait Fun Radio, pavillon de banlieue, Skyrock, bar de banlieue.
Voilà, si vous voulez. Alors, c'était caricatural, mais en même temps, il y avait quand même des identifications, des affiliations, des attachements au sein de la jeunesse elle-même.
Le 6 juin 1994, Skyrock lance un appel à ses auditeurs, leur demandant de téléphoner au standard de Love in Fun et de crier la phrase « Le nouveau Skyrock débarque ». Des adolescents relèvent ce défi. En représailles, Difool divulgue à l'antenne leur numéro de téléphone. Ces jeunes se retrouvent alors assaillis d'appels au domicile de leurs parents, pas très contents évidemment. Le CSA reçoit alors plusieurs lettres de parents, dont celle d'un avocat qui désire porter plainte pour sa fille. C'est une guerre des radios qui s'illustre aussi dans les cours de récréation et contribue à créer deux groupes distincts. Hervé Glevarec, il y avait aussi cette atmosphère de compétition entre Skyrock et Fun Radio qui était très forte.
C'était des libres antennes qui étaient configurées un peu différemment. Hein. La libre antenne de Difool était vraiment une libre antenne de l'interactivité, du témoignage. La libre antenne de Max était beaucoup plus une libre antenne de la performance, du théâtre. Hein, je me souviens d'adolescents rencontrés qui se mettaient dans leur lit et qui allumaient la radio pour passer un bon moment, comme s'ils allaient au spectacle, parce que Max mettait en place un dispositif de spectacle pour rigoler. On allait passer 2-3 heures à se marrer.
Qu'est-ce qu'il en est de la radio de nuit aujourd'hui, Hervé Glevarec ? Qu'est-ce qui a changé ?
Alors, pour une part, elle a un petit peu cessé, puisqu'on a beaucoup d'émissions maintenant de rediffusion sur les radios de nuit. Elle continue d'être essentiellement musicale pour ce qui est des radios privées. Elle a perdu probablement un petit peu de sa teneur et du sel qui pouvait lui être attaché.
Et pour quelle raison, d'après vous ?
Parce qu'elle subit la concurrence d'autres sources de divertissement, de cultivation, de culture.
Et puis peut-être que l'intime, aujourd'hui, il est partout. On n'a plus besoin d'attendre la nuit pour parler d'intimité.
Oui, c'est ça. Effectivement, l'intime... Là, la dernière enquête sur les pratiques sexuelles des Français montre à quel point les pratiques sexuelles se sont transformées. Donc, en quelque sorte, on n'a plus besoin des libres antennes pour entendre ou promouvoir une certaine ouverture des pratiques sexuelles.
Salut Doc, salut Difool.
Bonsoir.
Voilà ce qui se passe, j'ai une copine. On fait l'amour souvent, mais on peut faire l'amour très longtemps, mais j'arrive à avoir une seule éjaculation.
Oui.
Et après, j'ai beaucoup de mal, quoi.
Bah c'est déjà pas mal, hein.
Ouais.
C'est qu'il y en a qui n'ont pas du tout.
Durant les années où elle a réellement existé, la radio de nuit a représenté un espace de liberté et de rêve pour des millions d'auditeurs et d'auditrices. Elle a accompagné l'émergence d'une société de l'intime et l'apparition de communautés, que ce soit les auditeurs de José Arthur, les sans-sommeils de Macha Béranger, les fans des Nuits Magnétiques ou les ados à l'écoute des radios jeunes. Sur la disparition de la radio de nuit, on peut émettre une dernière hypothèse, celle de l'effacement de la temporalité jour-nuit dans nos sociétés, où les flux de paroles ralentissent mais ne s'arrêtent jamais vraiment, et où les mêmes programmes s'écoutent la nuit comme le jour. D'ailleurs, je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est chez vous à présent.
celle des archives, nos années radio de nuit, une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange, Delphine Lemaire et Lily Corner, prise de son Marie-Claire Oumabadi, Alina Arnaud-Planson, mixage Ludovic Auger, documentation musicale Antoine Vuillose.